sur le thème aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. C'est Paul qui écrit donc à ces chrétiens d'Éphèse et leur dit ces paroles: « Je vous en supplie, donc moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur. » Il a écrit cette lettre à partir d'une prison. Il était persécuté pour sa foi. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'il a écrit cette lettre aux Éphésiens. Il leur dit: « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité, d'où mon titre « Maintenons l'unité ». Faites tous vos efforts pour garder, pour préserver l'unité que donne l'Esprit Saint, ça c'est l'unité qui est donnée par l'Esprit Saint, par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu qui est le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. Amen. C'est le premier thème que Paul va aborder dans cette deuxième partie de l'épître aux Éphésiens. La partie qu'on appelle généralement la partie pratique, où Paul appelle ses chrétiens à marcher selon l'appel qu'ils ont reçu. Et il leur donne un certain nombre d'enseignements, d'exhortations très pratiques. Pour certaines exhortations, ça concernera le couple, la relation mari-femme ou encore la relation parent-enfant dans le cadre de la famille ou dans le cadre du travail. À l'époque, c'était les maîtres et les esclaves. Et Paul va apporter un certain nombre d'exhortations et de conseils spirituels très pratiques. Mais le premier thème qu'il va aborder, c'est le thème de l'unité. Donc, comme pour dire, voilà, c'est ce que je considère comme étant le plus important. Parmi tous les thèmes que je vais prendre, c'est d'abord celui-ci, le thème de l'unité. Nous savons que dans le cadre d'une église, mais dans le cadre de tout groupe humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, l'unité est un des biens, une valeur, une richesse, certainement parmi les plus précieuses. Nous savons à quel point même que c'est quelque chose de rare. Dans notre société, dans notre monde, marqué, abîmé, déchiré par toutes sortes de divisions, de séparations, de schismes. Et ça touche tous les groupes humains, hein, quels qu'ils soient. Ça commence par le couple, bien sûr. Quand on parle de divorce, ça se trouve dans la famille aussi. Les problèmes familiaux, des divisions dans les familles, parfois au sujet d'un héritage. Je ne parlerai pas de l'actualité, bien évidemment, mais on en a un exemple, et ça, c'est ce qui se répète combien de fois dans ces moments-là. Ça touche aussi tous les groupes sociaux, les groupes politiques, les groupes religieux, de toutes sortes. Ça touche les nations, bien sûr, les peuples qui sont en guerre, comme il y en a encore, bien sûr, et toujours, malheureusement, dans notre monde. Et ça, c'est une réalité que nous connaissons bien. Et on sait très bien, par expérience personnelle, que c'est comme si on n'avait pas été créé pour vivre dans un climat de guerre ou d'opposition ou de conflit. Pour la simple raison, c'est que quand on est dans ce genre de climat, vous l'avez peut-être connu, certainement peut-être dans votre famille, dans votre entreprise ou dans un autre groupe, eh bien, on n'est pas à l'aise. Alors, c'est peut-être nous qui avons déclenché la guerre, mais malgré tout, quand la guerre est là, on n'est pas à l'aise. On préfère nettement à entrer dans une famille où il y a la paix. On préfère nettement à rentrer dans une entreprise, à travailler dans une entreprise où les gens s'entendent, où il y a la paix. On préfère aussi être dans une église où il y a la paix. On est comme ça, en fait, parce qu'on a été créé comme ça, et ce n'est pas surprenant si on connaît la nature même de Dieu, qui est un Dieu de paix, un Dieu d'harmonie. Tout ce qu'il crée va dans ce sens-là. Donc, quand on n'est pas dans un climat de paix ou d'harmonie, on est mal, on se sent pas bien, on voudrait que ça change, on voudrait que ça s'arrête, on voudrait que la paix revienne, enfin voilà, parce qu'on a été créé pour la paix. Ça, c'est quelque chose de fondamental que nous avons dès le départ à la création. Et l'Église peut être ce lieu de de paix, bien sûr, et elle doit être. Je pense que s'il y a un groupe humain sur cette terre qui doit, où la paix doit régner absolument, c'est l'Église. On doit s'attendre. Ça doit être presque une évidence. C'est-à-dire, si on est cohérent avec ce que nous croyons, avec notre expérience personnelle, c'est forcément dans un tel lieu, dans un tel endroit, que nous devons trouver la paix et l'harmonie. Et on bénit Dieu, bien sûr, parce que nous vivons dans cette Église depuis pas mal d'années. Je disais tout à l'heure, il y en a qui sont là depuis des dizaines d'années. Et Dieu nous a permis de vivre ces années dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a jamais eu de dispute même. Forcément, il y a eu tout cela. J'ai dû régler la semaine dernière une dispute entre deux personnes. Il y a un conflit. Ça fait partie du quotidien de la vie de l'Église. Mais d'une manière générale, Dieu nous a permis de vivre dans un climat de paix pendant un grand nombre d'années. Et nous bénissons Dieu. Et tout cela a été possible. Pourquoi ? Parce que les générations qui nous ont précédés ont appliqué ce que Paul dit ici dans cette lettre. Il dit « maintenez l'unité ». C'est parce que des chrétiens avant nous ont travaillé pour cette unité. Ils ont fait ce qu'il fallait pour garder l'unité. Et il y avait toutes les raisons de se diviser, il y avait toutes les raisons de se battre et de s'empoigner pour différentes choses, mais ils ont maintenu en fait. Parce qu'ils ont maintenu, l'unité a été protégée. Et donc, si c'est vrai pour les générations précédentes, ça sera vrai pour les prochaines générations, bien sûr. Ça sera vrai pour la suite de notre Église. Et si j'en parle de cette manière-là, ce matin, c'est comme vous le savez, parce que j'ai informé l'Église de cela, personnellement, j'ai été averti, il y a quelques semaines de cela, que l'Église allait être éprouvée en ce qui concerne particulièrement son unité. J'ai averti l'Église un mardi soir, il y a quelques semaines de cela, vous le savez. On a prié pour cela, on s'est mobilisé pour ça dans la prière. Et j'avais annoncé que je partagerais sur ce thème à l'Église tout entière. Et c'est pour ça que j'aborde ce thème aujourd'hui, parce que je pense que l'Église est entrée dans une période de changement, on le sait, par rapport au projet immobilier que nous avons. Et bien évidemment, il peut y avoir, par rapport à ces décisions que nous allons prendre, à ces choix que l'on va faire, il peut y avoir des avis différents, il peut y avoir des positions différentes. On l'a eu même par rapport à l'achat, à la vente plutôt de nos locaux. On a vu qu'il y avait un large consensus, mais que tout le monde n'était pas sur la même position. Tout le monde n'avait pas le même avis. Donc comment faisons-nous quand on n'a pas le même avis ? Quand on préfère, on voudrait que les choses aillent dans ce sens-là et qu'elles vont dans un autre sens. Donc forcément, à partir du moment où nous allons avoir des choix importants à faire, des choix qui vont engager l'Église pour quelques dizaines d'années, ben forcément, il peut y avoir des risques d'opinions différentes, de positions différentes. Et là, à ce moment-là, il y a des risques de schisme, de division, de séparation. Et c'est pour cela qu'il va falloir veiller un peu plus encore, et c'était le sens du message que j'ai donné à l'Église il y a quelques semaines et que je donne aujourd'hui. J'ai dit à l'Église ce soir-là qu'il fallait élever notre niveau de vigilance, comme par rapport à ce qui se passe dans notre pays, lorsqu'il y a, toute comparaison gardée bien évidemment, il y a des attaques terroristes dans notre pays. Vous savez, ce que le gouvernement a mis en place, c'est un plan Vigipirate. Et ce plan Vigipirate, il concerne notamment à élever le niveau de vigilance des citoyens que nous sommes. Et il y a trois niveaux, un niveau maximum de vigilance. Et je pense que si on entre dans une zone, dans une période qui va être difficile, qui va être critique, et qui peut être l'objet aussi d'attaques de différentes sources, etc., eh bien, il va falloir qu'on élève notre niveau de vigilance personnelle, j'ai envie de dire. C'est pas l'autre là qui me concerne, c'est moi. C'est chacun d'entre nous qui doit être concerné, et de se dire, mais il faut que je sois encore plus vigilant. L'Église doit toujours être vigilante, même si l'Église de Cholet n'est pas dans cette période-là comme nous le sommes aujourd'hui. Il faut quand même, dans cette église de Cholet, comme dans toute église, que chaque chrétien soit vigilant, parce qu'il peut toujours y avoir des raisons d'avoir des opinions différentes et des positions différentes, et qui peuvent être des failles que l'adversaire utilise pour détruire, pour arrêter cette unité. Donc, nous allons voir ce matin Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de voir comment nous pouvons maintenir cette unité selon l'enseignement que Paul donne ici, en particulier à ces chrétiens d'Éphèse. Donc nous allons voir ces trois points ce matin. L'unité de l'Église, d'abord que c'est un don de Dieu, c'est un privilège que nous avons lorsque nous sommes dans l'Église, c'est que l'unité est donnée à l'Église. Nous allons voir comment. Ensuite, les œuvres, nous verrons les œuvres de Dieu pour l'unité de l'Église. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a accompli? Qu'est-ce que Dieu continue de faire pour assurer l'unité de l'Église? Ensuite, on terminera en regardant les gardiens de l'unité de l'Église. Qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour maintenir, pour garder cette unité? Le premier point concerne l'unité qui est un don de Dieu à l'Église. Vous avez remarqué que Paul dit ici à ses chrétiens d'Éphèse, il leur dit « Maintenez l'unité, gardez, préservez, protégez, conservez. » Il ne leur dit pas « Cherchez l'unité, essayez de trouver l'unité, faites tous vos efforts pour trouver l'unité. » Non, 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 il ne leur dit pas ça, il leur dit « Vous maintenez l'unité parce qu'ils ont l'unité, ils possèdent l'unité, ils sont unis en fait. » C'est là la raison pour laquelle, bien sûr, nous pouvons nous dire que si Paul nous dit cela, c'est parce que dans un sens, nous ne pouvons pas créer l'unité. On ne peut pas vraiment la créer. On essaye, et on voit dans notre société, que cette unité, souvent, elle tient pas longtemps, en fait. Hein, on a des exemples tous les jours de cela. On fait les choses, on essaie de mettre les choses en place, et puis on s'aperçoit qu'il ne faut pas grand-chose, justement, pour briser, pour abîmer ou pour déchirer cette unité. Donc ici, nous parlons d'une unité qui est le résultat de l'œuvre de Dieu, qui est donnée par Dieu à son Église. Donc si Paul nous dit « conserver l'unité », c'est parce qu'il sait que ce n'est pas nous qui pouvons la créer. Et s'il y a l'unité, ce n'est pas nous qu'il faut remercier, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas nous qu'il faut glorifier, en disant « on est quand même plus fort que les autres, on est quand même meilleur que les autres groupes, nous si on est unis, on s'aime bien ». C'est parce qu'on est tellement... Non, 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 non. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, on a le même potentiel que les autres pour se diviser, pour se séparer. C'est parce que Dieu a fait quelque chose, et Dieu a donné quelque chose à l'Église. Et la bonne nouvelle, bien sûr, si nous ne pouvons pas créer cette unité, Paul nous dit, cette unité, Dieu l'a créée. Et Dieu la donne, en fait. Et Dieu l'a donnée à l'Église. Et si Paul s'adresse ainsi à cette Église, c'est parce qu'il parle à des chrétiens, à des hommes et à des femmes qui ont vécu une expérience spirituelle. Ils ont reçu quelque chose. On le sait cela parce que Paul va commencer ce chapitre 4 qui est en fait dans l'Épître aux Éphésiens, la deuxième partie de l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens est composée de deux parties. Vous avez six chapitres. Vous avez les trois premiers chapitres, qui sont la première partie, et les chapitres 5 et 6, qui sont la deuxième partie. Donc c'est facile. Et on pourrait résumer ces deux parties, et résumer toute l'Épître aux Éphésiens avec ces deux mots. Le premier mot, un verbe, appeler, et le deuxième mot, un verbe, marcher. Appeler et marcher, vous avez le résumé de toute l'Épître aux Éphésiens. Si vous connaissez cette lettre, vous vous dites, ah oui, oui, c'est effectivement ça. Et c'est ce qu'on retrouve au début de ce chapitre 4, si tu peux remettre le premier texte qu'on a lu ensemble tout à l'heure, lorsqu'il dit, je vous en supplie, moi donc, qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez que Dieu a appelé. Donc, il s'adresse à des chrétiens, il leur dit, si vous êtes là, si vous êtes des chrétiens, si vous êtes dans l'Église, c'est parce que vous avez été appelés. Et vous avez répondu à cet appel, sous-entendu, bien sûr. Conduisez-vous maintenant d'une manière digne de cet appel. Marchez. Alors, on ne trouve pas ce terme ici. Dans d'autres versions, vous avez, à la place de conduisez-vous, vous avez marché. Marchez d'une manière digne de cet appel. Ce sont les deux mots qui résument toute cette épître aux Éphésiens, la première partie de cette lettre aux Éphésiens, Paul consacre ces trois chapitres pour rappeler les conditions de cet appel. Comment Dieu les a appelés? Pourquoi Dieu les a appelés? Comment il a fait pour pouvoir les appeler? Comment ils ont répondu à cet appel? Vous voyez, les trois premiers chapitres sont là pour rappeler ce que Dieu a fait pour pouvoir nous donner ce salut, pour pouvoir nous transformer, nous changer ou nous sauver. Donc, il est question de cet appel et pour peut-être mieux comprendre cela, on peut lire, si tu veux donner au chapitre premier, je ne sais pas s'il arrive après, je te fais faire... Ah oui, il y a l'histoire de la balance, oui, effectivement. Vous connaissez l'histoire de la balance? Paul commence, on regardera le texte tout à l'heure, mais Paul commence cette deuxième partie par ces mots, ces deux mots, c'est pourquoi. Ce n'est pas forcément dans les traductions que vous avez, mais c'est ce qui se trouve dans l'original. C'est pourquoi. Ça pourrait être traduit par conséquent. Hein. Peut-être certains diraient, parce que c'est une expression qu'on entend de plus en plus maintenant, du coup. Hein, du coup. Vous avez, tu sais pas cette expression? Oh, du coup. Tiens, on avait pensé à l'inviter, mais il n'est pas venu. Ben, du coup, j'ai invité un tel. Vous voyez? C'est pas comme ça qu'on parle? Bon, voilà. C'est souvent comme ça. Hein. À l'oral, c'est souvent comme ça. À l'écrit, c'est peut-être... Mais bon, à l'oral, c'est souvent comme ça qu'on parle. Mais on pourrait remplacer du coup par « c'est pourquoi » ou par conséquent. C'est-à-dire que j'ai invité un tel, mais il n'est pas venu, donc la conséquence de cela, c'est que j'ai pu inviter ou j'ai invité quelqu'un d'autre. Voyez. C'est là. Ce qui suit, c'est une conséquence de la première partie. C'est exactement la même chose avec l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, Paul commence cette deuxième partie en disant « écoutez bien, tout ce que je vais vous dire maintenant dans les trois chapitres qui viennent, c'est directement relié à ce que je viens de vous dire dans les trois premiers chapitres. Ne séparez pas les deux. Le problème, c'est que très souvent, on sépare les deux. On dit, ah ouais, maintenant, bah, ça y est, il a parlé de ce qu'est le salut et tout ça. Puis maintenant, Paul parle de ce que nous devons faire. Alors là, ça nous intéresse. Là. Il y a des choses qu'on doit faire, donc on va entreprendre. Non, Paul dit, non. Vous êtes appelés à faire certaines choses, mais si vous pouvez faire ce que je vous demande dans cette deuxième partie, comme maintenir l'unité, par exemple, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. Et ça, c'est ce que je vous ai rappelé dans la première partie. Donc c'est parce qu'il y a une première partie, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est parce que Dieu vous a appelé, c'est parce que Dieu a fait quelque chose en vous que maintenant c'est pourquoi, ou du coup. Il peut se passer des choses dans votre vie. Ce terme-là en grec qui est utilisé par Paul, qui commence, le premier mot de cette deuxième partie, c'est axios. Il a donné le mot axe notamment, en français. Et j'aime bien l'image de la balance. Ça vous rappelle des souvenirs peut-être? Si c'est le cas, oui, ça dit quelque chose sur votre âge, hein, c'est sûr. Parce que les plus jeunes, eux, ils connaissent les balances connectées. Voilà. Ces balances-là. Mais elles étaient pratiques, ces balances. Parce que vous voyez ce que vous avez avec ces balances. Vous avez deux plateaux. Alors, lorsque vous alliez au marché et que vous achetiez de la viande ou des légumes, eh bien, ils étaient mis sur un plateau. Et le marchand, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un des poids, là, et puis il les mettait sur l'autre plateau. Sur l'autre plateau. Et il fallait que l'axe au milieu soit à l'équilibre. Il faut que l'axe au milieu soit à l'équilibre. Et là, ça lui donne une idée du poids de ce que vous achetez, et donc du prix de ce que vous avez mis sur cette balance. Ça, c'est... ce que Paul est en train de dire ici. Il faut faire très attention parce que beaucoup de versions utilisent le mot digne, marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez eu, qui vous a été fait. Ce mot-là, il peut avoir un sens particulier, particulièrement dans le monde religieux. Dans le monde religieux, on veut être digne, on veut faire des choses pour être digne. Il y a une idée de mérite, vous voyez. On veut entreprendre, faire des œuvres pour s'approcher de Dieu, afin que nous puissions être dignes de lui, que Dieu puisse nous donner en retour, nous récompenser. Ce n'est pas du tout ça, le sens de ce mot ici. Paul dit, je veux que vous marchiez d'une manière digne. Il veut dire, c'est comme la balance, c'est-à-dire, Là, ce que l'on va mettre dans cette balance, dans la deuxième partie, ce que vous allez faire, et l'unité notamment, il faut que ça corresponde totalement à ce qu'il y a dans le premier plateau. Il faut que les deux correspondent, en fait. Il y a un lien direct entre les deux. S'il n'y a pas ce lien direct, il y a un déséquilibre. Et c'est de cela dont Paul parle. Il ne parle pas de digne dans le sens d'être à la hauteur et se dire « Bon, allez, on va aller à la hauteur maintenant de ce que Dieu demande. Allez, hein, pour mériter quelque chose de sa part, pour faire quelque chose qui fasse qu'on sera accepté ou accueilli par lui. » Non, 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 parce que la première partie, c'est justement de nous dire « Mais on a été accueilli. » Les trois premiers chapitres d'Éphésiens, quand il parle de l'appel, il dit « Ben, voilà, si vous êtes là maintenant avec lui, c'est parce qu'il vous a appelé, c'est parce qu'il vous a accueilli tel que vous étiez. » Et là, on peut peut-être lire ce texte au chapitre 2, versets 1 et 10. Il est merveilleux, ce texte. Alors, je n'ai pas tout mis, j'ai enlevé un ou deux versets, mais vous avez l'essentiel. « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes et des péchés. » Il dit « Voilà ce que vous étiez. » Voilà, quand Dieu vous a cherché, vous a appelé, voilà ce que vous étiez. Vous étiez morts. Ouais, il ne dit pas « Vous étiez souffrant, vous n'étiez pas très bien. » Non, vous étiez morts. Il n'y avait plus de vie, là. Nous tous aussi, dit-il, afin que nous faisions les volontés de notre chair, donc dans cette période-là, quand Dieu nous a appelés, on faisait notre volonté selon nos pensées et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Il dit, on n'était pas différents des autres. Et puis là, vous avez ce passage-là. Mais. Là, vous savez, ça, c'est ce qui annonce l'Évangile. C'est ce qui annonce l'Évangile. S'il n'y a pas ce mais-là, il n'y a pas d'évangile. Voilà ce que nous étions, voilà ce que le monde est, de manière générale. Mais Dieu est riche de compassion. Vous savez, celui dont il est question dans l'Ancien Testament, hein, le Dieu qui est riche en bonté et lent à la colère. Il reprend cette expression. Riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il répète ce qu'il a dit plus haut, il nous a rendus vivants avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, donc ce n'est pas par vos mérites, ce n'est pas parce que vous êtes dignes, vous êtes rendus dignes, c'est par grâce que vous êtes sauvés. L'autre page, merci. Il nous a réveillés ensemble, lui a fait quelque chose, quand il nous a appelés, il a fait quelque chose en nous, c'est l'équivalent d'une résurrection. On était morts, donc il fallait nous réveiller. C'est ce qu'il a fait ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela, donc, on répond à cet appel, on croit dans cette parole, on reçoit cette œuvre de Christ. Cela ne vient pas de vous, dit-il, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres. Ce n'est pas en vertu de ce qu'on a fait, pour que personne ne puisse faire le fier. J'aime bien cette expression. Hein, faire le pan, on pourrait dire. Faire le fier, être orgueilleux, s'élever. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Tout est là, en fait. Tout est là. Paul dit, vous savez, au chapitre 4, c'est pourquoi maintenant vous pouvez maintenir l'unité. Si vous pouvez faire ça, c'est parce que avant, il s'est passé quelque chose. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que Dieu a fait en vous. C'est le sens de cette parole. Vous avez reçu ces richesses, vous avez reçu ce pardon, cette espérance, cette vie nouvelle, cette grâce, tout cela, c'est dans un plateau. Maintenant, il s'intéresse, il dit maintenant, votre vie quotidienne, vos relations avec les autres, la vie dans l'Église, tout cela doit correspondre à ce qu'il y a dans le premier plateau, afin que l'axe soit à l'équilibre. Et le premier thème, je reviens là-dessus, le premier thème que Paul choisit, vous avez, je n'ai pas compté, j'aurais peut-être dû, mais je n'ai pas eu assez de temps, le nombre de thèmes que Paul a choisi d'évoquer, de prendre dans cette deuxième partie. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait entre 10 et 15 thèmes. Et parmi tous ces thèmes, Paul choisit le thème de l'unité en premier. Alors, il leur dit, écoutez, si je peux vous dire maintenant que l'unité est là et que ce que vous devez faire, c'est la maintenir, c'est parce que l'unité vous a été donnée. Et Paul en a parlé dans la première partie, ça ne vous surprend pas certainement. Il en a parlé à deux reprises. Nous allons regarder ces deux textes très rapidement. Le premier texte, c'est au chapitre 1er, un merveilleux texte, merveilleux. Il commence ainsi, il dit en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le salut donc, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a octroyé abondamment, donné en abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il y avait pendant longtemps, ça a été un mystère. Toute la période de l'Ancien Testament, avant la venue de Christ, il y avait bien des choses qui n'étaient pas encore claires en ce qui concerne ce salut et la manière dont Dieu allait faire les choses. Le projet bienveillant de Dieu, Dieu avait ce projet depuis toute éternité. Le projet bienveillant de Dieu qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Il y avait un temps pour cela, un moment qui devait arriver. Et ce qu'il a fait, c'est récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Dans d'autres versions, vous avez réunir, rassembler, réunifier. Ce qui est important, c'est la répétition, là. Paul dit, Dieu n'est pas là pour unir, il est là pour unir à nouveau. Ça sous-entend quelque chose, ça sous-entend qu'il fut un temps où tout était réuni. Et vous savez à quoi je fais allusion. Dans la première création, quand nous lisons les deux premiers chapitres de la Genèse, nous voyons l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, cet univers, cette terre en particulier, tout ce que Dieu a mis sur cette terre, avec le couronnement qui est l'homme et la femme créés à son image, selon sa ressemblance. Et tout cela a été créé dans une parfaite harmonie. Tout était uni. Une union à l'image de ce que Dieu est, en fait. Vous connaissez la suite, bien sûr. Chapitre 3, le mal fait son entrée dans le cœur de l'homme. Et à partir de ce moment-là, c'est la division. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est la violence sur cette terre. Toutes sortes de méchancetés. À tel point qu'à un moment donné, Dieu ne pouvait plus supporter. Et ça va être le déluge. Mais à nouveau, ça va recommencer. C'est cela sans cesse. Sans cesse. Mais Paul dit, Dieu avait un plan, il avait un projet pour cette humanité. Pendant longtemps, il a été secret. Il a été révélé progressivement, et puis avec la venue de Christ, et là pour ceux qui viennent ici pour la première fois, ça c'est le cœur de l'Évangile. Avec la venue de Christ, il est venu faire une œuvre de salut et de rédemption. Il est venu réunir à nouveau, récapituler. Ce mot-là est intéressant parce que il était utilisé dans l'Antiquité pour parler d'une addition, un calcul arithmétique. Vous savez comment vous faites, je vais rappeler peut-être des mauvais souvenirs pour certains, mais comment vous faites une addition en général? Quand on fait une addition, on met des nombres les uns en dessous des autres, hein, je ne sais pas, 18, 22, 72, 44, on tire un trait. Et puis en dessous, on met le total, la somme totale. Vous voyez. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez fait l'addition, là? Vous n'êtes pas rapide. Vous n'avez pas le total. Le total, en général, dans notre culture à nous, on le met en dessous. Mais chez les Romains et chez les Grecs, quand ils faisaient une addition, c'était le contraire. Ils mettaient le nombre ainsi, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Ils tiraient un trait et hop, ils mettaient le total tout en haut. Ils récapitulaient comme ça. Ils mettaient en haut, en fait. Mettez au sommet. Et là, il parle de Christ. Il dit avec l'œuvre de Christ, toute l'œuvre de Christ, c'est de pouvoir rassembler toutes choses pour être réunis avec lui là-haut, en fait. Tout est réuni là-haut. Ça, c'est le but. C'est le plan du salut. Vous voulez un exemple de cette réunification donné par Paul au chapitre 2, verset 7. Il dit, mais maintenant, on est toujours dans la première partie, oui, dans ce que Dieu a fait. Et là, on parle de l'unité, mais dans un exemple très concret. Maintenant, dans l'union avec Christ, ou Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés, vous voyez, comment Dieu réunit, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Il parle à ses Éphésiens, il leur dit, voilà ce que Dieu a fait avec vous. Vous étiez loin de Dieu, et Dieu vous a rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, vous voyez encore, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. Un seul peuple. Il n'y avait pas deux peuples qui étaient plus séparés que les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs ne voulaient pas manger avec les non-Juifs. Demandez à Pierre avant qu'il comprenne. Il n'en voulait pas, lui. Quand Dieu l'a envoyé, il voulait l'envoyer dans la famille de Corneille, il ne voulait pas, lui. C'était des non-Juifs, il ne voulait pas manger avec eux. Il ne voulait pas se rendre impur. Et il dit, voilà ce que Dieu a fait. Au travers de Christ qui a fait cette addition, et puis pour réunir toutes choses en lui. Il réunit les Juifs et les non-Juifs pour en faire un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur. Il y avait un mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, qui les séparait et en faisait des ennemis. Par sa mort sur la croix, Christ les a tous réunis en un seul corps. Il les a réconciliés avec Dieu par la croix, il a détruit la haine. Croyez-moi, quand vous étiez dans cette église d'Éphèse et que vous voyiez côte à côte des Juifs et des non-Juifs adorer Dieu, ça ne s'était jamais vu ailleurs. Sauf exception pour les non-Juifs qui adhéraient au judaïsme. Manger ensemble, communier ensemble. C'est de cela dont Paul parle. Quand il parle que l'unité a été donnée par Dieu. Ces Juifs et ces non-Juifs qui étaient à Éphèse ou à Antioche et dans les autres églises à cette époque, quand ils étaient ensemble, ils n'étaient pas en train de dire « Ah là, qu'est-ce qu'on est meilleur que les autres hein? » Vous voyez un peu comment on arrivait à nous entendre. Ils savaient très bien que ce n'était pas le fruit de leurs œuvres. Ils savaient que s'ils étaient réunis comme ça pour ne faire plus qu'un seul peuple, un seul corps, c'est parce que ils avaient été réunifiés. On arrive au deuxième point. Ce que Dieu a fait. Si on reprend, est-ce que tu peux reprendre le premier texte, s'il te plaît ? Chapitre 4. Oui, merci. On prend cette partie-là. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, il y a une seule espérance. Essayez de voir un peu comment les choses sont placées par Paul. À laquelle Dieu vous a appelé, il y a un seul Seigneur et une seule foi. Un seul baptême, et il y a un seul Dieu, le Père de tous. Je pourrais passer des heures là-dessus. J'ai relu cette semaine un des meilleurs livres, un des meilleurs commentaires sur ce passage de mon père spirituel, maître spirituel, Dr. Lloyd-Jones. Habituellement, lorsqu'il fait un commentaire, une étude sur des lettres, comme la lettre aux Éphésiens, habituellement, il lui faut un chapitre entier pour un seul verset. Ici, vous savez combien il lui en faut ? Il lui faut 7 chapitres pour prendre un par un les 7 éléments dans cette liste. Donc, vous voyez la matière. Et je pourrais vous en parler. Je suis obligé de résumer ce matin et de vous montrer une chose par rapport à ces œuvres de Dieu pour l'unité. Donc, lorsque Paul parle qu'il y a un seul corps comme ici, si tu peux mettre l'ensemble, s'il te plaît. un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Ça, c'est la première partie. C'est la première séquence. La deuxième séquence, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et la troisième séquence, un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, etc. Vous avez peut-être vu les différences et le lien entre les trois. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu, le Père de tous. Paul réunit ici la Trinité, les trois personnes en Dieu, le Saint-Esprit, le Fils et le Père. On a l'habitude de dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il les prend dans un autre ordre parce qu'il a des raisons pour cela. Mais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il veut parler de l'unité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Je reprends une parole que j'ai donnée le jour de Pâques. Qu'est-ce qu'il y a au centre de l'univers? Une relation. Au centre de l'univers, il y a une relation. Un Dieu en trois personnes, parfaitement unis depuis toute éternité, sans qu'il y ait eu la moindre ombre entre ces trois personnes. Toujours dans l'entente, toujours dans l'émerveillement les uns des autres. Toujours unis, de toute éternité. On comprend pourquoi, lorsque Dieu crée quelque chose, il va créer quelque chose qui lui ressemble. Et quand il a créé la nouvelle création, la première création, je veux dire, il a créé un monde qui était harmonieux. Et ça pouvait être qu'un monde harmonieux, comme Dieu l'est. Et c'est ce que Paul rappelle ici déjà, dans la manière de parler de cette unité. Il parle, il dit, il commence un seul corps. Il parle de l'Église. Et il prend l'image du corps. Ce n'est pas la seule image qui parle de l'Église dans le Nouveau Testament, vous le savez. Mais cette image, elle est très très forte. Elle dit quelque chose d'important sur l'unité. Il suffit de regarder notre corps. Hein? Il est quand même pas mal uni, notre corps. Hein? Et on n'a pas besoin d'être médecin, comme certains le sont ici, pour savoir qu'il est très très uni, ce corps. On le sent tout de suite. On le sent surtout quand il y a une partie de ce corps qui a mal, non? Même si c'est le petit doigt. Hein? Vous ne dites pas, oh, c'est le petit doigt, non, c'est le petit doigt. Non, vous criez très fort parce que c'est tout votre corps qui a mal. On aimerait bien séparer les deux, là. On aimerait dire, oh, c'est que le petit doigt, c'est pas grave. Le petit doigt, il sert, mais enfin, il n'est pas le plus important, quand même. Ah ouais, mais seulement quand il a mal, on sent l'unité. Et c'est une unité qui n'est pas mécanique, elle est organique. Et ça parle, bien sûr, de l'Église comme un corps. Et là où on sent le plus certainement l'unité, dans un groupe comme le nôtre ici, c'est lorsque quelqu'un d'entre nous a mal. On le sent tout de suite, là. Partout, il y a un peu d'unité, vous savez, dans une famille, dans un groupe humain. Lorsqu'il y en a un qui souffre, quand il y en a un qui est malade, les autres souffrent. Ils souffrent. Demandez aux parents quand ils voient leurs enfants. Là, atteints de graves maladies, ils voudraient bien prendre même cette maladie pour eux-mêmes. Ils voudraient prendre la place, s'ils pouvaient. Parce qu'ils souffrent, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'organique, là. C'est de cela dont Paul parle, quand il parle de l'Église. Il parle d'un corps qui est uni, organiquement uni, profondément uni. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, à la création, l'agent de cette création, c'est toujours le Saint-Esprit. Dans la première création, il y a une parole, c'est Dieu qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. La terre était informe et vide, vous vous souvenez ce verset, deuxième verset de la Bible. La terre était tohu-bohu, c'est le mot hébreu, et aussi français. Tohu-bohu. La terre était informe et vide, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et là, les choses vont apparaître. Mais dans la nouvelle création, la création spirituelle, lorsque Dieu nous appelle, c'est encore le Saint-Esprit qui agit. Jésus dira à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout à fait pourquoi il parle de l'eau là. Mais retenez qu'il est question de l'esprit. L'esprit de Dieu. Lorsque nous avons été appelés, c'est l'esprit de Dieu qui nous a appelés. Et nous avons répondu à l'appel de l'esprit de Dieu. C'est de cela dont il parle. Lorsqu'il parle d'un seul corps, d'un seul esprit, d'une seule espérance, ça c'est... Parce que, bien sûr, c'est une nouvelle création qui est en train de qui est dans un processus, qui est en train de se mettre en place de plus en plus en plus, et qui va finir, on le sait, à la fin de l'Apocalypse, par des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça, c'est cette espérance que l'Esprit nous donne, qui est tellement capitale. Par exemple, quand on arrive à la fin de notre vie, ou quand on assiste à la fin de la vie d'un être cher, d'avoir cette espérance-là, qui est donnée par le Saint-Esprit. Il y a une espérance, une grande espérance. Mais je pourrais parler encore longtemps de la deuxième partie, parce qu'il parle d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul baptême. Il parle de l'œuvre de Christ particulièrement. Cette foi que nous plaçons en lui, ce baptême. Vous savez ce que représente le baptême, ce que symbolise le baptême? Comme Paul le dira, on peut mettre ce texte, je l'ai mis volontairement ce texte dans Romains chapitre 6, il dira « Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort. » Si vous posez la question « À quoi sert le baptême ? Que symbolise le baptême ?» Vous avez tout là. Et que, comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. C'est ce qui est symbolisé par le baptême. La mise sous l'eau, c'est l'image d'un enterrement, d'une mort, une mort à une vie ancienne. Et la sortie de l'eau, c'est l'image de cette nouvelle vie, de cette résurrection. Tout cela est rendu possible parce que Christ, lui, est mort d'abord et est ressuscité ensuite. C'est l'œuvre de Christ qui donne et qui fait cette union. Et ensuite, enfin, je dirais, un seul Dieu est Père. Un seul Dieu le Père. Tu peux remettre la diapo avant, s'il te plaît. Un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. Ouais. C'est lui qui planifie. C'est lui qui décide. C'est lui qui domine, c'est lui qui règne, c'est son œuvre. Il est à l'origine de tout, de l'univers. Et l'Église, c'est son idée à lui, c'est son plan à lui. Cette unité, une fois qu'elle est là, il faut la garder. Et ça, c'est notre rôle. Et Paul appelle ces chrétiens qui vivent déjà cette unité. Ces Éphésiens vivaient cette unité. Par les œuvres du Saint-Esprit, de Christ et du Père. Il leur dit maintenant, faites tous vos efforts. Oh, il sous-entend que ça ne va pas être facile. Ouais. Faites tous vos efforts pour la garder maintenant. Vous voyez d'où elle vient? Vous voyez comment elle vous a été donnée? Ce que vous êtes vous maintenant, quand vous êtes le peuple de Dieu, l'Église de Christ. Maintenant, vous êtes appelés à faire tous vos efforts, ne jamais vous arrêter. Puis il nous donne des gardiens. Comment on va les garder cette unité? On ne va pas, bien sûr, développer tout cela, là encore, une question de temps, mais j'ai appelé les gardiens l'unité. Heureusement qu'il nous a donné ces gardiens. Vous avez... Vous connaissez ces gardiens-là? Ils sont précieux, hein? L'humilité et la douceur. Ensuite, la patience, l'endurance, l'amour. Supporter les autres avec amour, dit-il. Ce sont d'abord les dispositions de cœur, l'amour, l'humilité et la douceur, les qualités spirituelles. Ce sont toujours les ingrédients qui favorisent l'entente, la paix, l'harmonie, l'unité. L'inverse de l'humilité, l'orgueil. L'orgueil ne favorise pas généralement l'unité, vous savez ce que c'est, hein ? Quand quelqu'un se croit au-dessus des autres et se croit meilleur que les autres, là, on est sûr qu'on ne va pas vers l'unité. Hein. Quand quelqu'un est arrogant, il ne favorise pas la paix. L'expérience que nous avons reçue, si on revient à cette expérience spirituelle, je ne prends pas la première partie d'Éphésiens, mais je prends, par exemple, la première béatitude. Ça commence comment ? Cette série de 8 béatitudes. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Il dit « Vous avez commencé à considérer dans votre expérience spirituelle votre pauvreté, votre petitesse, votre faiblesse. Vous êtes humilié, vous êtes abaissé, vous avez reconnu ce que vous êtes. C'est ça la marque, celui qui est devenu un enfant de Dieu. C'est qu'il commence son expérience spirituelle par vivre cette humilité et garder cette humilité. Après, l'humilité va beaucoup avec les doux. Vous avez déjà vu le mot « orgueilleux et doux ». Ça colle là ?
Non.
Humble et dur. Chose qui ne va pas là. Humble et doux. Ah. Orgueilleux et dur. Oui. Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. Ça va ensemble. Doux, ça ne veut pas dire mou, hein. Ça peut rimer, mais ça ne veut pas dire mou. Il y a un homme qui a été appelé l'homme le plus doux de la terre. C'est Moïse. C'était loin d'être mou. Paul, on peut le mettre dans la catégorie aussi des doux. Et c'était loin d'être mou. Vous savez, ce qui caractérise la douceur, et on le voit en Christ, c'est que la douceur, oui, avec la douceur, on peut encore défendre la vérité, il faut pouvoir défendre la vérité. Et Jésus était doux et humble de cœur, mais il défendait la vérité. Mais quand Jésus était attaqué personnellement, vous savez ce qu'il faisait ? Il ne répondait pas. Il ne répondait pas. Il n'essayait pas de se venger. C'est là qu'on voit la douceur. Et Jésus dit dans la troisième béatitude, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Bizarre, hein ? On a l'impression que dans notre monde, c'est les durs surtout qui vont hériter la terre. Ils font tout pour hériter la terre. Jésus dit, ça ne se terminera pas comme ça. Ceux qui vont hériter la terre véritablement, ce sont les doux. Comme Jésus l'a été. Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'était la douceur de Christ. Si nous avons ces qualités-là, on a les armes, on a les gardiens, avec l'amour de cette unité. Pas le temps, mais si vous avez en plus, parce que si vous avez l'amour, l'humilité, la douceur, il devient possible d'être patient et même d'être endurant et de supporter. C'est possible. Ah oui, des situations, il faut être patient. Ça, oui. Et c'est le plus dur d'attendre. Il faut être patient. Mais avec l'humilité, la douceur et l'amour, ça devient possible. Je pourrais développer, mais j'ai pas le temps. Je termine. Concrètement, dans une église, où il y a tellement de différences. Je lisais un témoignage d'un pasteur qui racontait qu'il a été, je pense, à peu près 7 ou 8 ans, pasteur dans une église à Manille, aux Philippines. Et dans cette église, il y avait 36 nationalités différentes, des 5 continents. Mais ça ne s'arrêtait pas là, parce que nous aussi, on en a pas mal de nationalités et de cultures différentes. Ça ne s'arrêtait pas là. En plus de ces 36 nationalités différentes, il y avait 31 dénominations différentes qui étaient réunies. C'était une église internationale qui regroupait des quantités d'étrangers qui étaient là pour des affaires, pour X raisons, et qui se retrouvaient là dans cette église. Et il raconte le défi que ça a été pour lui. Il y avait à la fois des baptistes, des pentecôtistes, des épiscopaliens, des presbytériens, et ainsi de suite. Chacun avait sa petite pratique religieuse, sa manière de faire le culte. Alors il y avait le défi de la musique, le défi de l'ordre du culte. Il y en a qui étaient plus liturgiques, d'autres beaucoup moins. Il fallait être plus spontané, vous voyez, les pentecôtistes que nous sommes. Il y avait le temps de la prédication. Il y en a qui, pour 10 minutes, c'était déjà trop. Pour d'autres, il leur fallait au moins une heure. Ils seraient contents ici. Hein. Pour d'autres, il fallait des prières spontanées. Pour d'autres, non, il fallait plutôt des prières bibliques que l'on lise, que l'on récite. Et puis le repas de Sainte-Seine, je ne vous dis pas. Et je ne vous dis pas. Alors il raconte qu'il avait, organisé le repas de Sainte-Seine de cette manière-là. Parce qu'il y en avait qui voulaient du vin, d'autres qui voulaient du jus de fruits. Il y en a qui étaient habitués dans leur église, bien sûr, à ce qu'on leur apporte les plateaux, comme on fait chez nous. Mais dans d'autres églises, c'est eux qui vont en devant des plateaux, au premier rang. Donc il avait fait tout ça. Un dimanche, c'était une musique qui plaisait plutôt à un groupe, ainsi de suite. Mais il dit, ce qui a été extraordinaire, c'est que nous sommes arrivés à trouver une harmonie dans tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à l'intérieur de l'humilité, de la douceur et de l'amour. Et il dit, ça a été les plus belles années de mon ministère. Dans cette immense diversité, il dit, nous sommes arrivés à vivre cette unité. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient Christ en commun. Et la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il quelque chose ou quelqu'un de plus important que Christ qui nous unit ? Vous savez, il existe des quantités de pratiques, des quantités d'opinions, des quantités de préférences au milieu de nous. Tout cela est suffisant pour nous séparer et nous diviser. Mais si Christ nous est commun, il n'y a rien de plus important que lui. Et donc tout le reste n'est pas obligé de nous séparer. Si nous acceptons que ça nous sépare, c'est parce que Christ n'est pas le plus important. C'est ce qui nous sépare qui est le plus important. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on met à la tête quand on fait l'addition. Qu'est-ce qu'on récapitule ? Qu'est-ce qui nous réunit ? Est-ce que c'est Christ ? Je parlais des nationalités qui sont ici. C'est pareil, il y en a à Cholet aussi. Je prends un exemple. Un Français et un Gabonais, qui sont tous les deux chrétiens, ils ont plus en commun que deux Français ensemble ou deux Gabonais ensemble. Oh, il y a eu un petit amen. Hein. Je prends un autre exemple. Un médecin et un plombier, on a ces professions-là dans l'Église. Un médecin et un plombier chrétien ont plus en commun que deux médecins ensemble, même deux spécialistes ensemble et deux plombiers ensemble. Il y a beaucoup de choses en commun entre deux plombiers et deux médecins ensemble, bien sûr. Mais si vous mettez un médecin et un plombier, et c'est ce qui se passe dans cette église, à côté, ensemble, avec Christ au milieu, ils ont plus en commun que tout le reste. Paul a donné une liste avec cette partie. Un corps, un esprit, une espérance, un Seigneur, une foi, un baptême, un seul Dieu et Père. Peut-être vous allez me faire le reproche, mais je vais ajouter quelque chose, un huitième. Un huitième. J'ose. Je rajouterai, vous savez quoi ? Un seul repas. Un seul repas. Ce repas que nous allons partager dans quelques minutes. Ce repas qui a été institué par Jésus. Ce repas que Jésus a décidé pour nous en disant, vous allez prendre... Oh, il est très sobre le repas. Ce n'est pas un repas gastronomique, ça. Ce n'est même pas celui que vous allez avoir ce midi. Il n'y a que deux éléments, deux ingrédients. Il y a du pain, pain sec, et du vin, ou du jus de fruits. Nous aussi, on a été obligés de composer un peu, vous voyez ce que je veux dire ? Nous aussi. Du pain et du vin. C'est tout, c'est tout. Mais ça suffit pour illustrer et symboliser ce que Jésus voulait dire en instituant ce repas, parce que quand il a institué ce repas, il a donné un commandement. Et elle dit, voilà ce que je vous demande de faire quand vous allez prendre ce repas. Vous allez vous souvenir de moi. Vous allez vous souvenir de... Et là, on peut dire, mais Jésus, tu penses vraiment qu'on peut t'oublier ? Et vous savez ce que Jésus nous répond ? Oui. Oui. C'est pour ça que j'ai institué ce repas. En vous disant, souvenez-vous de moi. Parce que je sais que même si vous croyez ne jamais m'oublier, vous allez m'oublier. En tout cas, vous n'allez pas penser autant à moi que vous devriez penser. Donc, pour que vous ne m'oubliez jamais, je vous donne le commandement de prendre ce repas, de partager ce repas, chaque fois que vous vous réunissez. De sorte que vous ne m'oubliez jamais, c'est dans la mesure où vous n'allez pas m'oublier, que vous allez rester unis. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Et en pensant justement à cela, en disant, écoute Seigneur, que je sois avec toi réuni en haut là, dans la récapitulation finale, là où tu réunis toutes choses, tout ce qui ira sur le ciel et tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, que ça soit réuni. À Cholet comme à Angers, nous allons partager ce repas. Et nous allons le faire en pensant justement à Christ, qui lui nous a réunis pour faire de nous un seul peuple, pour sa gloire. Nous allons quitter Cholet, je leur dis à dimanche prochain, je les reverrai dimanche prochain, mais en attendant nous allons nous recueillir quelques instants. Maintenant, et j'invite les musiciens à prendre place, nous allons partager ce repas.